Bonjour tout le monde. Pâques. Un long week-end. Longue fin de semaine. Un succès commercial. Non, mais vous riez, mais c'est la fin de semaine de l'année ou la semaine, le temps de l'année, où on vend le plus de chocolat de toute l'année. Pâques, c'est un succès commercial. Pâques pour les enfants, lorsqu'on parle de Pâques, ils voient du chocolat, c'est sûr. Ils voient des lapins, des poules. Pour les adultes, on parle de printemps, de fleurs, mais jamais de mort et de résurrection. Pâques. Que signifie Pâques? Vous savez, tout à l'heure, on a pris la table du Seigneur, il y avait plusieurs espaces de plateaux, et sur le dessus du couvercle de chaque plateau, il y avait une croix. Le symbole du christianisme est une croix. Si c'était vraiment ça, le symbole du christianisme, une croix, ça serait triste. Car les brigands qui sont morts chaque côté de Jésus sont eux aussi morts sur une croix. Et si c'était juste ça, le symbole du christianisme, Jésus ne vaudrait pas plus cher que chacun des brigands mort sur une croix, et que tous les gens qui sont morts sur une croix, crucifiés sous l'Empire romain. Et il y en a eu des dizaines de milliers. La croix n'est pas juste le seul symbole de Pâques. Le plus important, ce n'est pas nécessairement la croix. Et je ne veux pas dire que j'ai blasphémé la croix. Allez pas dire ça, là, OK? Je dis pas ça. Mais la croix, sans le tombeau vide, et le tombeau vide, sans Jésus-Christ en chair, le Pâques n'est pas complet. Depuis Adam et Ève, des millions de personnes sont mortes et ne sont pas ressuscitées. Et ils sont encore dans leur tombeau, leurs ossements sont encore là. Et nous allons mourir, et vous passerez par l'incinération, nous passerons par l'incinération, ou par le tombeau est enterré, etc., mais on va rester là, pour l'instant, en tout cas. Pâques, la résurrection. Que signifie la résurrection? La nature physique de Jésus est d'importance capital. Il n'est pas né par l'opération du Saint-Esprit d'une vierge qui s'appelle Marie pour naître humain comme un petit bébé qu'on doit changer les couches et toute l'équipe qui va avec pour rien. Il était un homme parmi les hommes. Si cet instant-là est si important, la naissance de Jésus, sa mort l'est autant et sa résurrection est encore plus capital, et le fait qu'on le voit vivant est d'importance capitale. Jésus, le Messie, venu en chair. Jean chapitre 1, n'y allez pas, vous pourrez le lire à la maison. Jean chapitre 1, des versets 1 à 18, nous enseigne que Jésus est venu, il est le Verbe incarné, la parole incarnée dans la chair. C'est ça que ça veut dire, incarné. Le Messie en chair, un homme. Il meurt, et c'est terrible, le Fils de Dieu meurt. Et il y a combien de pièces de théâtre, de films qui ont été écrits, dont le titre est « Dieu est mort ». Donc, si Christ est sur la croix et qu'il est encore dans son tombeau, notre Dieu ne vaut pas plus cher que chacun des brigands, chaque mort de Jésus-Christ. L'importance de la résurrection. Seul le christianisme dans toutes les religions revendique un tombeau vide et un sauveur vivant. Toutes les autres religions ont des prophètes, des dieux philosophiques, mais aucun ne peut dire un sauveur vivant. Quelle est l'importance d'avoir un sauveur vivant? Demandez à n'importe quel veuf ou veuve s'il est important d'avoir un époux ou une épouse vivant. Très important. On vient de chanter tout à l'heure, là, juste maintenant, là. Il intercède pour nous. Quelqu'un de mort n'intercède pour personne. L'importance que Jésus soit vivant. Un tombeau vide est important. Mais un tombeau vide sans un corps matériel nous laisse toutes sortes de questions. Où est le corps? D'ailleurs, dans Matthieu 27, et tournez ensemble avec moi dans chapitre 27, et on va lire quelques versets ensemble à partir du verset 57, Matthieu chapitre 27, 57, et on va aller jusqu'au verset 15 de 28. Matthieu chapitre 27, verset 57. Le soir étant venu, alors Jésus est mort sur la croix, il vient de mourir. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi un disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il était encore vivant, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, ou voici une garde encore. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples, qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le trouverez, vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, et avec une grande joie, elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, car c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » On va vous tirer d'affaire, c'est ce qu'il veut dire. Les soldats prirent l'argent, suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. L'importance de la résurrection de Jésus. La vérité du christianisme repose sur sa résurrection corporelle. Prions, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour cette journée glorieuse où nous nous souvenons que tu es vivant, que plusieurs témoins t'ont vu, que tu as quitté cette terre avec des témoins pour envoyer ton Consolateur. Père Céleste, ce matin, sois glorifié, sois élevé, car tu es vivant. Enseigne-nous par ta parole, au nom de Jésus. Amen. L'importance de... La résurrection de Jésus-Christ. Jésus a dit, je ressusciterai le troisième jour. Pas besoin d'aller avec moi, mais dans Matthieu, plusieurs fois, Jésus a dit à ses disciples qu'il ressusciterait. Je vous donne les références, écrivez-les, mais moi je vais vous les lire. Dans Matthieu 16, 21, il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Matthieu 17, un peu plus loin, verset 9. Comme il descendait de la montagne, c'est juste après la transfiguration. Pierre, Jean, Jacques sont là, ils descendent de la montagne. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Versets 22-23 du même chapitre. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Dans Matthieu 20, un petit peu plus loin, versets 18 et 19, Matthieu 20, on va lire le verset 17 aussi. « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Si on prend le même événement, la même histoire à ce moment-là, et qu'on va dans Marc chapitre 9, là, les disciples posent la question, qu'est-ce que c'est que ressusciter? Les disciples ont été enseignés par Jésus lui-même, « Je vais ressusciter le troisième jour. Je vais mourir, je vais souffrir à Jérusalem, mais je vais ressusciter le troisième jour. » Plusieurs fois, c'est répété, mis à part toutes les prophéties qui mentionnent que Jésus va ressusciter, que Jésus est vivant. Que font les disciples quand Jésus est arrêté? Intéressant de revoir cela. Que se passe-t-il? Matthieu 26, 56, quand Jésus est arrêté, tous les disciples l'abandonnent et prennent la fuite. Toute une équipe de hockey, ça. Toute une équipe de hockey. Le temps difficile arrive, les disciples s'enfuient. Dans Matthieu, chapitre 26, on voit Pierre qui s'approche. Et là, quelqu'un lui dit, une servante lui dit, « Ah oui, oui, toi, tu étais avec eux autres. » Il dit, « Non, 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 j'étais pas là. » Et même, il récite le chapelet en leur disant ça. Il sacre, il jure, « Non, 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 je ne le connais pas. » Voilà ce que les disciples font quand Jésus est arrêté. Quand il fut crucifié, on peut voir dans Matthieu 27, dans Marc 15, dans Luc 23, qu'il regardait de loin et il parle principalement des dames, des femmes. Dans Jean 19, on voit qu'au pied de la croix, il y a Marie, sa sœur et Jean. Les autres sont où? Ils sont loin. Ils ont oublié l'enseignement que Jésus leur a dit que le troisième jour, il allait ressusciter. Et ils en sont surpris. Et Thomas dit, « Tant que je n'aurai pas mis mes mains dans ces trous, dans les trous, ma main dans son côté, la blessure de la lance, je ne croirai pas. » Et quand Jésus le rencontre, il lui dit, « Thomas, mets la main là. Mets ta main dans mon côté. » Je vais vous dire une chose. Si je me serais appelé Thomas, tu ne files pas gros dans tes culottes à ce moment-là. Jésus est ressuscité. Intéressant de voir que dans le passage qu'on vient de lire, quand Jésus est mis dans le tombeau, les principaux sacrificateurs et les scribes s'en rappellent, eux autres, que Jésus a dit, ou cet imposteur, comme ils le disent dans le texte, « Je vais ressusciter le troisième jour. » Mais les disciples ne s'en rappellent pas. Sommes-nous aussi oublieux que cela? Les disciples, est-ce qu'ils ne comprenaient pas ou est-ce qu'ils n'écoutaient pas? Pourtant, ils ont posé la question, qu'est-ce que c'est que ressusciter des morts? Bon, c'est clair que des ressuscités, tu n'en rencontres pas toutes les fins de semaine. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais quand tu vis pendant 3 ans avec le Fils de Dieu et que tu vois tous les miracles qu'il fait, dont des résurrections, des aveugles qui voient, des quadriplégiques qui marchent, une foule qui est nourrie avec des pinottes, mais avec du pain et quelques poissons, comprenez ce que je veux dire? Rien. Et toute la foule est nourrie. Quand quelqu'un te dit « je vais ressusciter », tu devrais avoir tendance à écouter et à croire. Jésus va ressusciter. Pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort parce que depuis Adam et Ève, il y a une condamnation sur l'homme, sur l'humanité, à cause du péché. Depuis Adam et Ève, l'humain, l'être humain est pécheur. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Nous sommes en rébellion contre Dieu, désobéissant dès la naissance. Alors, ça paraît pas trop quand ils sont tout petits comme ça. Laissez-leur s'asseoir par terre, vous allez voir à quel point c'est obéissant. Je vous le garantis. Parlez à des parents, ils vont vous le dire, ils vont. Même si aujourd'hui, on a des parents qui disent, moi, je vais élever mes enfants, il faut leur parler, dialoguer avec eux autres. Tu dialogueras avec un petit bonhomme d'un an qui commence à marcher. Puis tu lui dis, touche pas, ça c'est les choses à papy ou à mamie. Je vais vous garantir une chose, tu es mieux de les mettre ailleurs parce que tu vas les perdre. La désobéissance, un an. On sait très bien, vous et moi, que nous sommes menteurs, que nous sommes désobéissants, que nous avons des yeux qui convoitent, nous avons des pensées pécheurs, pécheresses. Nous savons ça très bien. Si vous dites que je ne suis pas pécheur, si vous dites vous-même que tu n'es pas pécheur, tu te dis je ne suis pas pécheur. Petite illustration par rapport à ça, il y avait un pasteur qui prêchait un sermon comme ça, et il savait que dans le groupe ici, il parlait à un congrès à des pasteurs. Et il y avait un pasteur qui lui disait qu'il ne pêchait plus. Et il venait de prendre un repas. OK, tout le monde était à table. Et durant son sermon, il arrive, il se déplace, comme je le fais, il prend le pichet d'eau. OK, puis, vous savez, il y a des pasteurs qui sont très bons dans l'illustration. Et il verse le pichet d'eau sur la tête de ce monsieur qui ne pêche plus. En se levant, il était en furie. Il a dit, à cette heure, tu pêches. Nous sommes tous des pécheurs. Et depuis Adam et Ève, il a fallu couvrir notre péché devant Dieu. Et depuis Adam et Ève, il y a eu des morts d'animaux qui sont morts, sur lesquels on imposait les mains pour remettre le péché en image de celui qui allait venir. C'est pour ça qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. C'est lui qui a pris ta place, ma place, et il est mort. Mais s'il était resté sur cette croix ou dans ce tombeau, ça aurait servi autant que n'importe quel des autres, Dieu, prophète et compagnie. Mais il est ressuscité. On appelle ça une mort expiatoire. Depuis Adam et Ève. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique, la mort spirituelle, séparée de Dieu depuis Adam et Ève. Les disciples ont oublié. Les disciples n'ont pas compris. Un des deux. Et on a des disciples, des apôtres tristes, abattus, et vaincus. Que font-ils? Ils sont retournés à leurs anciennes occupations. pêcheurs, charpentiers, etc., comptables, n'importe quel travail, ils sont retournés à leur ancien travail. Pourtant, Jésus avait dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et ils sont retournés pêcher des poissons. Ils sont retournés, ils étaient vaincus. Pourtant, Jésus, s'il avait, en déclarant qu'il ressusciterait des morts, trois choses. Soit il était complètement fou, soit il était menteur et imbu de lui-même, soit il était vrai. Et le seul moyen de prouver cela, c'est qu'on le voit ressuscité et vivant. Est-il vraiment ressuscité? Pendant de nombreuses années, M. Thomas Arnold de l'Université Oxford disait, « Pendant de nombreuses années, j'ai étudié l'histoire d'autres temps. J'ai examiné le poids de la preuve apportée par ceux qui écrivent à son propos. Je ne connais pas de fait dans toute l'histoire du genre humain qui ait été mieux prouvé et attesté par des évidences de toutes sortes pour l'intelligence de tout chercheur sincère, que le grand signe que Dieu a donné, à savoir la mort et la résurrection d'entre les morts. » Quelquefois, j'ai parlé d'un livre que je lis en ce moment, en tout cas que j'ai lu en ce moment, qui s'appelle « Le verdict ». C'est un complément d'enquête de M. Josh McDowell. C'est une brique. Hein? Si vous lisez ça, là, ça se lit quand même très bien, mais c'est une très bonne brique. Alors, j'ai ça depuis à peu près 20 ans dans ma bibliothèque et je ne l'ai jamais lu. Alors là, je l'ai lu. C'est pas bon, c'est excellent. C'est excellent. J'ai lu plusieurs livres qui parlent de recherche scientifique, mais lui touche à peu près tout, que ce soit l'archéologie, que ce soit les textes bibliques, surtout, il touche tout ça extrêmement intéressant. Je vais vous lire un petit morceau. Nous sommes en 1800 et quelques, là, j'oublie, 1747, je vous lis ça. Deux jeunes gens brillants, Gilbert West et Lord Lyttelton, se rendirent à Oxford. C'était les amis du docteur Johnson et Alexander Pope, en vogue dans la société. Ils étaient résolus à s'attaquer à la base même de la foi chrétienne. Ainsi, Lyttelton entreprit de prouver que Saul de Tarse, Paul, ne s'était jamais converti au christianisme, et West, lui, voulait prouver que Jésus n'était jamais sorti du tombeau. Quelque temps après, ils se retrouvèrent tous deux pour discuter de leur découverte. Tous deux étaient penauds, car chacun de son côté en était arrivé aux mêmes conclusions troublantes. Lyttelton avait découvert que Saul de Tarse était réellement devenu un nouvel homme du fait de sa conversion au christianisme, et West, que les preuves parlaient indubitablement en faveur du fait que Jésus était bien ressuscité d'entre les morts. On peut encore trouver son livre dans une grande bibliothèque. Il a pour titre « Observation de l'histoire et les évidences de la résurrection de Jésus-Christ ». Traduction libre, c'est en anglais. En 1747, ça a été écrit. La preuve indique de manière irréfutable que Jésus ressuscita le troisième jour. Telle fut la conclusion à laquelle parvint l'ancien ministre de la Justice d'Angleterre, Lord Darling. Au cours d'un dîner privé, la conversation s'orienta sur la vérité du christianisme et plus particulièrement sur un certain livre traitant de la résurrection. Appuyant le bout de ses doigts les uns contre les autres, dans une attitude judiciaire et s'exprimant avec une emphase extraordinairement impressionnante, il déclara « À nous les chrétiens, il est demandé de tenir beaucoup de choses par fidéicomis. » En bon français, fidéicomis, ça veut dire une trosse. Par exemple, les enseignements et les miracles de Jésus. Si nous devions tous les garder en dépôt, pour ma part, je serais sceptique. Le nœud du problème, Jésus fut-il ou ne fut-il pas ce qu'il déclara être, doit certainement dépendre de la vérité ou non de la résurrection. Sur ce point capital, il ne nous est pas seulement demandé d'avoir la foi. En faveur de cette vérité vivante, il existe tant de preuves extraordinaires, positives et négatives, factuelles et circonstancielles, qu'aucun jury intelligent au monde ne se hasarderait à prononcer un verdict déclarant que le récit de la résurrection n'est pas vrai. M. McDowell, qui a écrit cela, lui aussi, il a écrit son livre dans un but très précis. Il est étudiant à l'université. Il est étudiant en droit. Il prend toutes ses fins de semaine, vendredi soir, samedi, dimanche, pour s'amuser, prendre un coup et tout ce qui va avec. Il rentre difficilement debout à l'université le lundi matin et quand il se retrouve dans la cafétéria, il rencontre un groupe de jeunes qui sont toujours joyeux, toujours heureux. Et il commence à dire, « Qu'est-ce que vous avez que moi je n'ai pas ?» Et il rencontre un groupe de chrétiens, et je vous lis ce qui est écrit. « C'est alors que mes nouveaux amis me lancèrent un défi auquel je ne pouvais pas croire. Ils me sommèrent, moi, étudiant en enseignement préparatoire aux études de droit. » Quand vous lisez son témoignage, parce qu'il y a plusieurs pages, j'insiste sur le fait « moi ». Étudiant en droit, il ne se prenait pas pour... c'est pas le dernier de la classe, hein? Vous me demandez, moi, d'examiner du point de vue intellectuel l'affirmation suivante, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crus qu'il plaisantait. Ces chrétiens étaient si ringards. Comment une chose aussi peu convaincante que le christianisme pouvait-elle résister à un examen intellectuel? Je pris en dérision leur défi. Mais ils n'abandonnèrent pas la partie, me pressant jour après jour de répondre à leur défi jusqu'au moment où ils finirent par me coincer. Leur insistance m'irritait à tel point que j'acceptais enfin le défi, non dans le but de prouver quoi que ce soit, mais de les contredire. Je décidai d'écrire un livre devant présenter le christianisme comme une plaisanterie intellectuelle. C'est ce livre-là. OK? Je quittai l'université pour parcourir tous les États-Unis et l'Europe afin de rassembler des preuves montrant que le christianisme n'était qu'une imposture. Et là, il déclare, il détaille tout ce qu'il fait. Et en rentrant aux États-Unis, je regagnais l'université sans pouvoir fermer l'œil de la nuit. Il a ramassé toutes sortes de preuves et il nous les partage dans son livre. Je me couchais à 10 heures sans pouvoir dormir jusqu'à 4 heures du matin. Occupé que j'étais à tenter de réfuter les preuves incontestables que Jésus-Christ était bien le Fils de Dieu. Je finis par comprendre ma malhonnêteté intellectuelle. Mon esprit me disait que les affirmations de Christ étaient vraies, mais ma volonté me tiraillait dans une autre direction. Je m'étais tellement attaché à trouver la vérité, mais je n'étais pas disposé à la suivre après l'avoir découverte. Et là, il cite le verset Apocalypse 3:20, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Et M. McDowell s'est converti à ce moment-là. Les preuves irréfutables que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est vivant. Les preuves bibliques. Apparition de Jésus-Christ à certaines personnes. Marie-Madeleine, Marc 16, Jean 20. Aux femmes revenant de la tombe, Matthieu 28. À Pierre, plus tard dans la journée, Luc 24, 1 Corinthiens 15. Aux disciples d'Emmaüs, Luc 24. Aux apôtres, en l'absence de Thomas, Luc 24, Jean 20. Aux apôtres, en présence de Thomas, Jean 20. Aux sept, près du lac de Tibériade, Jean 21. À une foule de plus de 500 croyants sur une montagne de Galilée, 1 Corinthiens 15. À Jacques, 1 Corinthiens 15 aussi. Aux 11, Matthieu 28. Marc 16, Luc 24, acte 1, à l'Ascension, acte 1, à Paul, acte 9, à Étienne, acte 7, à Paul dans le Temple, acte 22, acte 23, à Jean sur l'île de Patmos, Apocalypse, chapitre 1. Jésus-Christ est vivant. Trop de témoins, trop d'évidence. Jésus est vraiment ressuscité. Les apôtres, les disciples, et même les foules en témoignent. Suite à cette résurrection, des apôtres qui étaient des pleutres, vous savez ce que ça veut dire des pleutres, des peureux, OK, ils se sont sauvés, ils sont retournés à leurs anciennes occupations. De ces gens-là, vaincus, peureux, après la résurrection, ils étaient prêts à diriger le plus grand mouvement à travers le monde qu'on appelle le christianisme. Et ils sont morts pour un ressuscité. Ça, c'est ce qu'on voit que Christ peut faire dans une vie. Ils sont prêts à mourir pour lui, de peureux, tristes, abattus, vaincus qu'ils étaient. Et je vais vous lire un autre petit encadré. Je l'ai marqué avec des petites feuilles jaunes, ça va bien. Hein? Le jour de la crucifixion, ils furent tous remplis de tristesse, mais de joie le premier jour de la semaine. À la crucifixion, ils étaient désemparés, mais le premier jour de la semaine, leur cœur brûla de certitude et d'espérance. Quand le message de la résurrection leur parvint aux oreilles dans un premier temps, ils manifestèrent de l'incrédulité et furent difficiles à convaincre. Mais une fois qu'ils en eurent acquis la certitude, ils ne doutèrent plus jamais. Quelle pouvait être l'origine d'un changement aussi étonnant survenu chez ces hommes en un laps de temps si court? La simple disparition du corps de Jésus du sépulcre n'aurait jamais pu transformer leur esprit, leur caractère. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont vu, ils ont touché, ils ont mangé avec Jésus ressuscité. Songez à la personnalité de ces témoins, hommes et femmes qui apportèrent au monde l'enseignement éthique le plus noble qu'il ait jamais connu et qui, de l'aveu même de leurs adversaires, le mirent en pratique dans leur vie. Songez à l'absurdité psychologique qui consiste à imaginer une petite bande de lâches abattus se terrant dans la chambre haute un jour, transformés quelques jours plus tard en un groupe que la persécution ne put réduire au silence. Tentez d'attribuer ce changement extraordinaire à rien d'autre qu'à une misérable invention qu'ils auraient essayé d'imposer au monde. Ceci n'a aucun sens. Et ça, c'est M. Anderson qui dit ça. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Puis qu'est-ce que ça change pour moi là-dedans? Qui c'est que ça change pour toi si Jésus est mort et ressuscité? La victoire sur la mort, la victoire sur la condamnation. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que toi et moi, à cause de notre péché, notre salaire, c'est la mort et l'enfer pour l'éternité. Je suis quelqu'un qui est irrité avec le mot « j'ai droit ». C'est mon droit. J'ai le droit. Voici mes droits. J'haïs ce mot-là parce que la seule chose qu'on a vraiment droit comme pécheur, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne le réalise pas vraiment. C'est un dû, l'enfer. Je suis un être rebelle. Tu es un être rebelle. Et Jésus est venu pour que nous puissions être sauvés. J'ai bien beau être bon, j'ai bien beau être fin, j'ai bien beau aller à l'église tous les dimanches, j'ai bien beau faire tout ce que je peux faire en bonnes œuvres. La maille qui me retient au ciel, la chaîne plutôt qui me retient au ciel, n'est pas plus forte que le plus faible de ses maillons. Et j'ai beaucoup de maillons faibles dans ma vie. Tu as beaucoup de maillons faibles dans la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est venu et il nous dit qu'il est venu dans Romains chapitre 3 pour nous gracier, pour nous sauver gratuitement. Il a pris la condamnation du péché sur ses épaules, acceptant lui, trois fois saint, de mourir sur cette croix et de prendre tous nos péchés. Pensons à ça. Quand la Bible nous dit qu'il est devenu péché, c'est pas écrit qu'il est devenu pécheur, c'est marqué qu'il est devenu péché pour nous. Et à cause de cela, Dieu a dû détourner son regard de son Fils. Il a été abandonné du Père. Il nous a aimés, il nous aime. On peut voir ça dans plusieurs passages dans Jean 3, 16. Quelques questions là-dessus, on termine avec cela. Connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus? Pas juste que tu saches que c'est Jésus qui était là il y a 2000 ans, puis il est né avec Marie, puis son père c'est Joseph, puis il était charpentier, puis il est né dans une crèche, puis il est mort sur une croix. Non, non, non. Connais-tu Jésus comme celui qui te parle et qui te dit « Je veux te sauver, je veux pardonner tes péchés, j'ai tout payé, j'ai racheté, je t'ai racheté de l'esclavage du péché, je t'ai racheté de l'enfer, veux-tu me connaître? » C'est ça qu'on appelle la repentance, se tourner vers Jésus, lui demander pardon pour nos péchés, puis lui dire « Sauve-moi ». Et vous savez ce que la parole de Dieu nous dit? Que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés parce que Jésus a tout payé. Intéressant, le salut. Es-tu vaincu, abattu, triste comme les apôtres? Est-ce que tu connais Jésus, mais tu es vaincu, abattu, triste? Est-ce que tu le connais comme une chose intellectuelle ou tu le connais personnellement? Est-ce que tu es comme les apôtres et tu vas oublier que Jésus a dit qu'il allait ressusciter? Est-ce que tu oublies que Jésus a dit « Je reviens bientôt » et quand il va revenir, tu vas dire « Ah ben, j'avais oublié! » Est-ce que c'est ça que tu vas dire? Jésus s'attend qu'on l'attende. Il va revenir bientôt. Il peut revenir aujourd'hui. Je ne sais pas quand il va revenir, mais il a dit qu'il va revenir. Est-ce qu'on est prêt à ça? Prions, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour un si grand sacrifice. Merci de ce que tu es mort pour nos péchés. Nous voulons t'adorer maintenant, Seigneur, parce que tu es vivant, glorieux. Des preuves irréfutables, Seigneur, sont là pour nous montrer par des témoins que tu es vivant. Des preuves irréfutables sont là aussi, Seigneur, parce que tu as quitté cette terre. Tu as dit que tu enverrais un autre Consolateur, le Saint-Esprit, et on a vu le jour de la Pentecôte la transformation que le Saint-Esprit dans une vie peut faire. D'un Pierre peureux, Seigneur, qui avait même blasphémé en te reniant, Seigneur, sort de la chambre haute, rempli du Saint-Esprit, pour être un témoin vivant à toute la foule qui était là. Merci, Seigneur, pour les miracles que tu peux faire. Sauve des âmes ce matin. Et toi, chrétien, qui te dis « Sauvé par Jésus-Christ », qui ne vit pas pour lui, depuis combien de temps ne lui as-tu pas demandé pardon pour tes péchés? Ne lui as-tu pas donné tes péchés? Ne lui as-tu pas donné ta vie? Ce matin, c'est un temps où on peut se reconsacrer ou se consacrer à toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour, Seigneur, éternel. On veut te louer, car tu es le seul qui mérite toute adoration. Au nom de Jésus. Amen.